Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Silab pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. Cette semaine, c'est une émission plutôt spéciale parce que bon, vous savez, hein, on est chez nous, on fait pas grand chose et du coup, bah, on fait Super Radio 64 dans des conditions extraordinaires au sens propre du terme, car je suis personnellement en train de parler à travers le micro de mon ordinateur. Puisque c'est le confinement, depuis un peu plus d'une semaine, on a décidé de faire une émission à l'ancienne, comme au tout début de la première saison, où on fait que parler de jeux, et on va vous parler de jeux auxquels jouer ou ne pas jouer pendant le confinement, les semaines à venir. Pour cela, je suis en compagnie de Pierre, comme à l'accoutumée, salut.
Bonjour à toutes et à tous.
Et de deux revenants sur l'antenne de Radio Silab, j'ai nommé Florian, salut.
Salut, très content d'être là, ça fait plaisir.
Eh bah écoute. Et Alex.
Salut, moi aussi je suis très heureux d'être là sur Silab.
Alex qui est l'ancien techos de Super Radio 64 qui récupère un petit peu sa place étant donné que la technique disponible chez moi est de piètre qualité, on va pas se mentir. Et donc pour commencer cette émission spéciale de Super Radio 64, on va commencer par la chronique de Florian.
Oui, tout à fait. Donc moi, je voulais vous parler du confinement, histoire d'être ultra original. Et j'ai décidé de dire que voilà, le confinement, il faut le voir comme une opportunité. Alors, une opportunité pour la planète, mais surtout une opportunité pour nous, humains, de nous replonger dans les vieux classiques du cinéma et de la littérature, et surtout du jeu vidéo. Donc, à titre personnel, moi, de toute façon, j'avais besoin d'un jeu chronophage, mais qui me permet de créer un univers et de gérer mes ressources. Donc, pas comme Gauthier, les Sims, mais moi, plutôt Minecraft. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Minecraft, c'est un jeu de construction avec des cubes. Donc, ça peut sembler basique comme ça, mais si vous testez, vous verrez que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc, par chance, moi, j'avais déjà un compte que j'ai pas eu à racheter. Comme ça, j'ai pas eu à racheter le jeu. Mais comme je me souvenais plus du nom de mon auteur de SF préféré, pardon Isaac Asimov, pardon, et de celui de mon meilleur ami du lycée, donc là, pardon personne parce que je me souviens vraiment plus du tout de mon meilleur ami du lycée, c'est triste. Donc j'ai demandé en fait à mon beau-frère de me filer son compte et ainsi vers midi, j'ai pu commencer à jouer. Donc waouh, quelle aventure quand même. Alors après cette matinée du coup fort bien remplie mais très peu productive, moi j'ai rejoint le serveur et j'ai commencé à jouer. Donc là, direct quand tu arrives, c'est le bond en arrière, c'est comme si j'avais pris la DeLorean. Donc j'avais de nouveau 15 ans, on retrouve tout de suite les vieux réflexes, le plaisir de créer, la peur des monstres, et je me rappelais pas qu'ils étaient aussi vénères, et surtout les engueulades avec les potes, parce que oui, Minecraft se joue en ligne et propose plein de défis pour jouer seul ou à plusieurs. Donc le premier, c'est surtout de se remettre à niveau, car ouais, je vais pas vous le cacher, je suis un peu rouillé. Et surtout le plus vite possible, parce que moi j'ai des potes mais gamers, mais qui sont vraiment ultra hardcore, quoi. Ils ont farmé le jeu comme des bâtards depuis au moins 2 jours de confinement. Moi, je viens à peine de m'y remettre, quoi. Alors, pour l'instant, je vous cache pas, voilà, que je suis un peu rouillé, mais je compte vraiment sur ces 2 semaines ou plus de confinement, car l'actualité n'arrête pas de changer. Donc pour devenir vraiment une vraie bête à Minecraft, bref, un jeu qui me permet en tout cas de jouer avec mes potes et de casser du monstre, moi j'ai envie de dire oui. Là, on va pouvoir. Là, c'est bon, c'est fini.
Minecraft, donc. Alors, je sais pas qui veut réagir. Je te pique un peu ta place, Gauthier.
Bon, vas-y, je te laisse.
Alors, moi, j'ai plusieurs questions à te poser, Florian. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas joué à Minecraft? Que tu n'étais pas revenu sur le jeu?
Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas joué à Minecraft. C'est énorme. C'est énorme.
Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, mais rien justement, c'est ça qui est formidable avec Minecraft, c'est que c'est un jeu franchement qui propose plein de possibilités. Et enfin, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir des gros changements, quoi. Bon, peut-être des monstres un petit peu plus vénères. Je veux dire, le squelette avec un arc quand il m'a tiré dessus, j'avoue que j'ai pas compris.
Et pourtant, ça a toujours été là, ça, le squelette avec un arc. Hein.
Ouais, mais j'ai joué quand même pas mal, mais j'étais rarement tombé sur des squelettes comme ça, quoi.
Non, mais lui, il a joué que dans la version où il y avait des blocs d'herbe, c'est tout.
Ah oui, d'accord.
Moi je crée bonhomme, c'est à dire que moi c'est simple, quand il fait nuit je dors, c'est un truc de ouf, tu vois, je vais dans mon lit, hop, après je repars, je suis un créateur, moi je suis un bâtisseur.
Ouais, parce que tu joues en mode survie et tu fais tes objets, enfin tu fais tes blocs pour après créer, ou ouais, tu touches au mode créatif un peu?
Ouais, je touche un peu au mode créatif maintenant, mais c'est vrai que là je commence à m'y remettre et je joue avec des potes qui eux n'ont jamais arrêté depuis leurs 8 ans, donc je vous laisse imaginer un petit peu le niveau qu'ils ont, c'est assez vénère, donc moi à chaque fois ils me disent « Mais Florian, t'as pas fermé la porte, putain !» Ouh, je comprends leur énervement, surtout quand je m'amuse aussi à péter leur récolte, par pur plaisir évidemment, malsain. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir en plein confinement de pouvoir quand même continuer à s'engueuler avec ses potes.
Moi j'ai une autre question aussi, qu'en est-il de Too Many Items?
Quoi? De Too Many Items?
De Too Many Items.
C'est un cheat, c'est un nom.
C'est un kit, ouais.
C'était un mode pour avoir tous les objets, mais c'est un échec de référence.
Ah oui, non.
Personne
n'avait la ref. Tu vois, j'ai pas
fermé. Oui, bah écoute, j'ai voulu faire un portrait, finalement, et bah c'était dégueulasse.
Non, mais en tout cas, Minecraft, je veux bien croire que, surtout aujourd'hui, c'est le genre de jeu indémodable, mais est-ce que c'est le genre de jeu exportable? Ce que je veux dire, c'est que, alors, moi, j'ai des potes qui jouent à Minecraft sur Switch, et j'avoue que personnellement, j'ai du mal à imaginer jouer à Minecraft, prendre du plaisir à jouer à Minecraft sur un autre support que le PC. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez?
Sur PC à fond, il faut rester sur PC. Il y a des jeux comme ça qui sont faits vraiment pour le PC, Minecraft, ça en fait partie. J'aurais du mal à y jouer sur une autre console.
Ouais, pareil, hein. Quand j'ai vu Minecraft sortir sur Xbox ou sur PlayStation, j'étais un peu, bon, pourquoi pas, hein, si ils veulent. Ou même sur téléphone, pour moi, ça me paraît quand même vachement limité sur les consoles. Pour moi, c'est le PC qui prime.
Ça, et puis il y a plus de facilité à jouer en ligne. C'est ça aussi qu'on aime bien, pouvoir aller sur un serveur, retrouver ses potes ou même aller vers d'autres personnes, faire des rencontres. Et c'est vrai que là, le PC, bah, ça ouvre quand même plein de possibilités.
De ce que j'ai vu sur les versions consoles, c'est quand même bien plus limité que les versions classiques sur PC, quoi.
Ouais, c'est ça, je me doutais que c'était un peu plus limité, et puis surtout il y a pas cet attrait là de des serveurs et tout. Ce que moi j'aimais bien quand je jouais à Minecraft en ligne, c'était aller dans un serveur qui proposait des centaines de mini-jeux et tout, et puis après quand on avait fait le tour, on revenait sur notre serveur perso. Mais ça, c'est un plaisir que je pense que le consoleux ne pourra jamais connaître. Donc, quitte à jouer à Minecraft pendant le confinement, bah, jouez-y sur PC. En plus, si je dis pas de bêtises, il est moins cher sur PC.
Fait. Normalement, tout le monde a un ordinateur, donc je vois pas pourquoi est-ce que les gens s'arrêteraient, voudraient y jouer sur console. Je veux dire, c'est comme les Sims. Je crois que ça a été un échec, les Sims sur PlayStation, et c'est normal.
Non, je crois pas. Hein.
Non. Ah, ok, d'accord.
Il y a Punky qui a fait une vidéo sur les Sims 1 sur console qui est très cool dernièrement.
Et vous, c'est quoi un peu vos expériences sur Minecraft, Gauthier et Pierre?
Moi, mon expérience sur Minecraft, c'est j'y ai joué un peu comme tout le monde quand c'était à la mode entre 2011 et 2013. Et comme beaucoup de gens, je faisais des vidéos sur YouTube à ce moment-là. Et je me suis dit, Minecraft, ça marche. Du coup, je vais faire une chaîne secondaire Minecraft. Qui a duré 4 vidéos qui sont encore disponibles parce que j'ai perdu malheureusement les mots de passe. Et
ça ne devait plus arriver.
En fait, ouais, j'y jouais vraiment juste parce que tout le monde y jouait, mais je crois pas que j'avais plus de plaisir que ça, en fait. En tout cas, à explorer, à faire le jeu classique et puis à construire, à se balader, à faire sa son aventure. Ça me plaisait pas trop. Ce qui me plaisait plus, c'était pas forcément les serveurs, parce que j'avais une version craquée, du coup je pouvais pas aller sur les serveurs. Mais c'était de faire des maps aventures, de télécharger des maps et puis d'aller les visiter, ou alors de faire un scénario qui est vraiment pensé en amont pour faire une map. Moi, ça, c'est ça qui me plaisait plus dans le jeu. C'est pas le côté créé, c'est plus le côté visité, en
fait. Ouais, ça c'est super, surtout n'hésitez pas, il y en a plein des maps à télécharger qui sont encore disponibles, et même des vieilles maps qui sont encore d'une qualité folle. Une aventure entre potes ou solo, c'est super cool pour ça. Et toi, Pierre?
Moi, de mon côté, ça a été assez restreint. J'ai découvert ça avec ma grande sœur, en fait, qui connaissait ce jeu quand il est sorti, à peu près. Donc c'était assez austère. Et du coup, j'y avais pas prêté énormément d'attention, hein. Sur cette époque-là, j'étais plutôt sur Half-Life. Et en fait, notamment sur Minecraft, ouais, c'est sympa. Après, moi, à partir du moment où j'ai ma maison et que j'ai trouvé du diamant, ça me fait un peu chier, quoi.
Je te lâche, ouais.
Voilà. Après, oui, je pense que niveau serveur, niveau game mode, il y en a plus que je ne peux y en imaginer, mais voilà, pour le moment, c'est pas vraiment le jeu qui me tente.
Et par rapport à donc par rapport à la chronique de Florian, j'ai l'impression que Florian il est retombé sur sur Minecraft parce que justement on est dans une période de confinement, on est dans une période où voilà on doit rester chez nous, rester chez vous d'ailleurs.
Ouais, bah oui,
rester
chez vous.
Ah bah nous sommes en guerre. Hein.
Hashtag reste chez vous bordel.
Hashtag je reste chez moi.
Et
les héros, on se rend pas compte. Hein. On est des putains de héros.
J'ai l'impression que Minecraft, ça a été délaissé, en tout cas par une grosse communauté des jeunes joueurs, pour des jeux plus populaires du style Fortnite. Alors quand je dis délaissé, c'est parce que personnellement, j'ai pu constater qu'il y a des serveurs qui étaient des références qui ont été désertés quoi, très vite. Est-ce que vous pensez
qui ont fermé
même fermé. Est-ce que vous pensez que voilà une période comme ça, ça pourrait des jeux comme Minecraft qui ont été un peu délaissés pourrait voilà récupérer un regain d'intérêt.
C'était une discussion intéressante. Et tout de suite, du coup, on va passer à la chronique de Pierre.
Alors, eh bien, écoutez, pour commencer, déjà, j'ai beaucoup hésité à choisir mon jeu. Je me suis dit, est-ce que en temps de confinement, j'ai envie d'avoir un truc plutôt bourrin. Alors, je me suis penché vers Doom, Doom Eternal qui sort aujourd'hui même. Je me suis dit, bon, c'est quand même super, il sort aujourd'hui. Pourquoi pas? Puis je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de refouler un peu mes pulsions meurtrières? Peut-être plutôt me tourner vers un univers paisible, doux, décontractant, pour me vider la tête. Alors je me suis dit Animal Crossing peut-être, qui sort aujourd'hui aussi. Alors bon, apparemment tous les opus qui sont attendus sortent aujourd'hui, hein, comme si tous les éditeurs s'étaient mis d'accord pour sortir lors d'une période de confinement, peut-être un complot mondial à débusquer. Mais malgré ça, je suis retourné vers un jeu qui, en tout cas pour moi, a bercé mon adolescence, et c'est Counter-Strike Global Offensive. Alors en effet, il n'est pas tout jeune comme Minecraft, hein, il est sorti en août 2012, mais ça reste pour moi le meilleur shooter compétitif. Alors laissez tomber les Call of Duty, Battlefield, autres shooters sans saveur. Pour ceux et celles à qui ça ne dit rien, bon, je vais dresser un topo rapide. Les terroristes contre les forces de l'ordre, 16 manches gagnantes dans les parties compétitives, avec du 5 contre 5. Ça dure environ une heure et demie selon votre niveau. Donc les objectifs sont pas super variés, par contre, hein, c'est sauver un otage ou désamorcer une bombe. Mais les serveurs de la communauté ont quand même créé pas mal de modes, donc il y a le hide and seek, le prop hunt, jailout, les surfs, etc. Alors pourquoi je choisis ce jeu pour le confinement? Parce qu'en fait, il est vachement chronophage. Quand tu te lances dans une game, tu es sûr d'être parti pour une heure et demie, et tu vois pas le temps passer. Sauf si vraiment l'équipe adverse est nulle et auquel cas tu le roules dessus. C'est vrai que la communauté peut être toxique, mais en même temps, quel jeu massivement multijoueur peut se vanter d'avoir une commu propre, hein? Si on peut regarder la commu de LoL, elle est ce qu'elle est. La commu des Call of, c'est pareil. Je veux dire, aucune communauté ne peut être irréprochable. Et en fait, je l'ai choisi parce qu'en fait, il y a une grosse marge d'apprentissage. Donc, quand on va commencer le jeu, vous aurez un tutoriel où on va vous inculquer les bases, mais c'est vraiment pour faire joli. Hein, vous allez vraiment pas apprendre à jouer dans ce tutoriel. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez passer des dizaines et des dizaines d'heures à comprendre comment vont fonctionner les patterns d'armes, les stratégies, les lancements de grenades, l'économie. Et tout ça, ça va vous permettre de jouer à la manière que vous voulez et de comprendre comment fonctionne le jeu. C'est un jeu assez gratifiant au final, puisque quand on réussit à faire un clutch en 1v5, bah forcément là on devient le héros de l'équipe. Il y a aussi l'évolution des ranks en compétitif, hein, de Silver 1 à Master Elite, si je ne me trompe pas, ou Global. Donc c'est un jeu aussi qui a beaucoup évolué, hein, depuis son lancement. Au début, c'était un peu bateau, quoi. C'était pas, enfin, en tout cas pour moi, je le trouvais pas super. Après, ils ont rajouté des armes, des cartes, des modes, donc c'est bien. Et puis ils ont aussi rajouté une énorme bibliothèque de skins d'armes que je condamnerais un petit peu parce que ça force un peu, enfin ça force. C'est vrai que quand on a envie d'avoir des belles armes, il faut forcément passer par par la carte bancaire, ce qui est dommage. Quand tu vois que des skins les plus rares sont à plus de 60 000 euros, ça fait un peu mal au cul. Et du coup, pour résumer, moi sur ce jeu-là, je me suis fait de super amis, j'ai dû passer plus de 1000 heures en comptant les différents comptes Steam que j'ai eus à travers mon aventure. J'ai aussi mis une fortune en skin et j'ai aussi pété de nombreux câbles à cause de mon incompétence et de ma mauvaise foi. Donc voilà, je vous recommande Counter-Strike Global Offensive pour votre confinement.
Ok, très bien. Et moi j'ai Juste une question, un truc que j'ai jamais compris sur Counter-Strike, c'est comment ça marche l'économie, comment est-ce que ça... En fait, on peut faire... Enfin, j'ai su qu'on pouvait miser du vrai argent sur des trucs, mais j'ai jamais compris comment ça marchait.
Alors, l'économie in-game de la partie ou l'économie alternative?
On parle des deux.
Bah, l'économie in-game, bah, c'est tout ce qui va être... Bah, quand tu es dans une partie, tu vas gérer tes ressources financières pour savoir quelle arme acheter, etc., en fonction des rounds. Hein, souvent, dans les premiers rounds, tu vas faire, par exemple, le pistol round, tu vas prendre souvent un gilet pare-balles, etc. Et après, ça va être à toi de constituer ton économie en fonction de ton équipe et en fonction du nombre de manches que tu gagnes. Parce que bon, c'est compliqué. À partir d'un certain nombre de manches que tu perds, tu gagnes plus d'argent à la fin de ton round. Enfin bref. Et l'économie transverse, hein, l'économie des skins, ça a été pendant un long moment très florissant avec des skins de paris, enfin avec des sites de paris de skins. Tu pouvais ressortir avec des montagnes de thunes ou alors ressortir les poches vides, hein, comme dans n'importe quel jeu de hasard. Et au final, Valve a dit, bah écoutez, on a marre du commerce transverse et des sommes de thunes inimaginables que vous mettez ailleurs. On veut les avoir nous. Du coup, on va faire interdire tous les sites de gambling, ce qu'ils ont fait. Et du coup, maintenant, on n'a plus du tout de sites. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Maintenant, ça va être des sites d'échange. Mais oui, en gros, t'as vraiment toute une économie parallèle de ce jeu-là. T'as des skins qui valent 3 centimes, mais t'en as qui vont valoir 60 000, tu vois.
D'accord, ok.
Ok, moi j'ai une question. J'ai jamais trop compris la hype autour de CS. J'ai bien aimé regarder les vidéos de l'un qui était racide sur le jeu, mais j'ai jamais joué personnellement. Et j'avoue que j'ai du mal à saisir pour être un très. Enfin, je joue pas vraiment très peu au FPS. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'il a d'autre celui-là? Qu'est-ce qui le différencie et le démarque d'un autre FPS je crois que Call of Duty vient de sortir en online
Oui.
récemment. Par exemple, pourquoi je jouerais à CS pendant le confinement quand je pourrais jouer au dernier Call of?
Bah, en vrai, c'est un peu, c'est du je t'aime moi non plus, Counter-Strike. C'est-à-dire que c'est très demandant, hein. Et quand tu penses avoir compris le jeu, bah, au final, tu commences à en découvrir tu découvres une nouvelle partie. Par exemple, quand tu commences à comprendre l'économie, tu commences à comprendre aussi comment l'économie adverse doit fonctionner et tu commences à prévoir ce que eux vont acheter dans les rounds suivants. Après, tu vas avoir tout le côté de l'aim. L'aim, c'est un truc incroyable parce qu'au final, dans les jeux actuels, tu peux faire du tir au jugé, mais tu peux aussi utiliser tes organes de visée. Alors que dans Counter-Strike, tu pourras jamais utiliser tes organes de visée, ce sera que, entre guillemets, du tir au jugé.
Donc c'est très, j'ai l'impression que la particularité, elle est surtout très technique.
Ouais.
Et alors c'est assez drôle parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant en parlant de Fortnite. Tu étais d'accord avec moi pour dire que la charge cognitive qu'a demandé dès le début, c'était compliqué. Et là tu nous conseilles Counter-Strike en nous disant c'est compliqué. Qu'est-ce que tu
Bah
me réponds?
ouais. Ah bah du coup, ouais, je peux te répondre à ça parce que Fortnite, c'est dès le début, en fait. On va te lâcher dans un endroit où on va te demander, démerde-toi, en fait. Tu t'es lancé dans ton premier Battle Royale et tu vas devoir te débrouiller contre 100 personnes, enfin, entre guillemets, 100 autres personnes, 99. Et il va falloir que tu apprennes les bases via ton expérience. Hein, si tu regardes un autre joueur, t'as plus de chances de te faire buter et de toute façon, tes parties vont pas durer très longtemps. Or là, dans une partie de CS, même si tu es une quiche totale, tu auras forcément une personne qui sera meilleure dans ton équipe, qui pourra t'aider et qui pourra entre guillemets, te montrer. Alors oui, c'est vrai que tu risques souvent de te faire taper sur les doigts si tu fais une connerie. Et oui, tu vas devoir apprendre beaucoup de choses, mais même si tu apprends, je sais pas moi, l'aim, eh ben, tu sauras tirer ton épingle du jeu. T'es pas obligé d'apprendre tout. C'est vrai que c'est mieux de savoir apprendre à lancer les grenades où il faut, quand il faut, mais t'auras toujours quelqu'un d'autre qui pourra t'apprendre ou qui pourra s'occuper de ça.
Oui, et je pense que CS peut peut-être nous refaire apprécier le respawn, parce que je pense que c'est peut-être aujourd'hui Les Battle Royale dans FPS, je sais pas, les fans de FPS, vous saturez pas là, parce que genre, c'est hyper frustrant de s'investir pendant un temps, mourir, et après c'est fini. Je trouve que le respawn à ce truc-là de... Voilà, on est une équipe, mais jusqu'à la fin de la partie.
Ouais.
Après, c'est deux types de jeux différents, hein, c'est des préférences, mais voilà, je me dis que peut-être je profiterai de ce confinement pour tester CS, alors.
Moi aussi, tiens.
Bah oui, puis ce qui est bien, c'est que si vous perdez, par exemple, moi le truc que je trouve très frustrant dans le Battle Royale, et que Call of, si j'ai cru comprendre leur Battle Royale qui est sorti dernièrement, et ce que font Apex aussi, c'est qu'ils te permettent de faire revenir tes alliés en jeu.
Ouais.
Tu vois, moi, ce que je trouve vachement frustrant quand j'ai joué à PUBG, c'est que j'ai passé une heure à monter un peu comme un clodo, à essayer de grappiller des places en train de rouler dans la gadoue pour essayer d'éviter les combats. Et au final, je me fais déglinguer et voilà, bah, la partie est terminée. Bravo. Rentre chez toi. Alors que dans CS, bah, tu meurs, mais tu peux très bien mourir. Enfin, tu peux mourir de plein de façons. Tu peux mourir parce que bon, t'as mal joué, tu peux mourir pour essayer d'attirer l'ennemi ailleurs, tu peux mourir parce que ton allié a été mauvais et du coup il t'a lancé une grenade à la figure. Mais
okay.
ce qui est bien, c'est que je crois que c'est les rounds sont 3 minutes, t'as 3 minutes, t'attendras 3 minutes, 3:30 au grand max, et puis voilà, t'es reparti pour un deuxième round.
Ok, d'accord. Bah écoute, on testera ça.
Et Florian, t'as quelque chose à dire sur le sujet ?
Non, j'avoue que j'ai d'autres jeux en prévision, mais je me mets celui-là sur la liste pour le tester, parce que j'avoue qu'il a l'air d'être intéressant. Même si le fait de, je sais pas, le côté très charge mentale de ce jeu ralentit un petit peu mon envie, mon entrain.
Ouais, mais il a plus ou moins dit que voilà, tu progressais avec le jeu, et ça c'est quand même quelque chose.
Mais surtout, c'est qu'il faut pas se mettre la pression pour apprendre tout. C'est-à-dire que les choses qui sont principales à apprendre, c'est savoir gérer l'aim de ton pistolet et de ton arme favorite. Par exemple, tu auras une arme principale qui sera un fusil d'assaut ou un fusil sniper. N'est pas obligé d'apprendre les deux. Tu peux très bien te spécifier dans le fusil d'assaut ou dans le sniper. Par exemple, dans les compos sportives, d'équipes sportives, on te dit, j'ai besoin d'une personne qui est forte en assaut, j'ai besoin d'une personne qui est forte en défense sniper ou qui est fort en agressif sniper. Tu vois, les rôles sont plus un peu plus étiquetés, un peu plus carrés dans CS.
Ok, non, mais je me mets sur ma liste.
Et bah tout de suite, alors, on va passer à la chronique d'Alex.
Alors oui, alors pour l'instant, les deux premières chroniques sont très nostalgiques, et moi aussi, je vais vous parler d'une Madeleine, je vais vous parler de Pokémon, et je vais répondre à cette question. Pourquoi Pokémon épée et bouclier ne sont pas les jeux qu'il vous faut pour le confinement? Alors avant toute chose, j'aimerais être clair, hein, j'adore Pokémon, comme la plupart des fans de la licence. Je suis tombé dedans quand j'étais enfant, et depuis mes 10 ans, Pokémon, ça m'a jamais vraiment lâché. Si j'ai commencé avec Diamant et Perle, j'ai évidemment rattrapé mon retard sur les anciens jeux, et j'ai pu voyager à travers toutes les régions du fabuleux monde des Pokémon. Seulement voilà, aujourd'hui j'ai 22 ans, et ce monde, il me paraît bien fade, et je vais vous expliquer pourquoi. Pokémon Épée et Bouclier se déroule dans la région de Galar, inspirée du Royaume-Uni. Comme d'habitude, vous incarnez un jeune dresseur qui a pour but de parcourir cette nouvelle région en quête de badges et de nouveaux Pokémon à capturer. Comme d'habitude donc. Parce que oui, ne nous voilons pas la face, Pokémon, c'est grosso modo le même jeu depuis le début, à quelques détails près. Oui, aujourd'hui, en 2020, dans un jeu Pokémon, on doit toujours aller chercher 8 badges pour affronter le champion de la ligue. Oui, on doit toujours affronter une team bizarre aux motivations pas toujours très claires. On a toujours un système de combat à 4 attaques, on a toujours les hautes herbes, bref, on a toujours des mécaniques de jeu vieillissantes avec un scénario très creux. Mais vous reprendrez bien une dose de nostalgie pour vous faire avaler la pilule. Allez, vieux fan de Pokémon, regarde, on a un Meowth de Galar, tu te souviens de Meowth, hein, tu l'aimes bien? Ah, tes anciens Pokémon sont coincés dans ton ancienne version? Ah oui, pas de souci, tu pourras les récupérer comme d'habitude. Enfin, juste quelques-uns, hein, ils sont pas tous dispo dans le jeu. D'ailleurs, ça va aussi te coûter 16€ pour transférer tes anciens Pokémon avec l'application PokéHome. Et rajoute aussi 20€ si t'as pas le online de Nintendo. J'avoue, je joue à Pokémon depuis un moment, par nostalgie et surtout par confort. Je sais que d'une version à l'autre, très peu de choses vont changer. Je sais que je vais pouvoir revoir mes Pokémon dans une qualité un peu meilleure que celle d'avant. Je sais que je n'aurai aucune mécanique déstabilisante. Bref, Pokémon, c'est un peu mes chaussons tout confort. Le problème, c'est que ça fait 13 ans que je les porte, ces chaussons. Et vous avez déjà essayé de porter des chaussons pendant 13 ans ? Ce que je veux dire par là, c'est que je les vois maintenant, ces mécaniques de confinement vidéoludique. Et maintenant que je les vois, j'ai plus qu'une envie, c'est de sortir. J'ai envie de neuf. Proposez-moi des choses, Pokémon. Osez, vous pouvez oser, vous en avez les moyens. Alors oui, je te comprends, fan de la première heure. Je comprends que tu n'aies pas pu résister à l'appel des petites oreilles jaunes de Pikachu. Mais laisse-moi te dire une chose. Eh ben, ta licence préférée, eh ben, elle se fout de toi. Franchement, tu ne penses pas qu'avec ta fidélité à toute épreuve, tu pourrais exiger un jeu un peu plus ambitieux ? Ce que propose Pokémon épée et bouclier, en termes de nouvelles mécaniques, c'est des Pokémon géants et une zone où la caméra est libre. Attention, je parle d'une zone. Vous pourrez apprécier le joystick droit de votre Switch pendant, à tout casser, un quart du jeu. Le reste, c'est de la 2D en profondeur. Et là, j'entends, hein, j'entends les « Oui, mais Alex, on joue aussi à Pokémon pour l'histoire. Hein. » Bah oui, ça m'aurait étonné qu'on joue à Pokémon pour la difficulté. Du coup, parlons scénario deux petites secondes. Ben là aussi, hein, c'est comme d'habitude, on a un grand méchant qu'on n'a vraiment pas vu venir, hein, qui est une pseudo-bonne cause à défendre. Bref, si vous avez déjà joué à un jeu Pokémon, rien de très surprenant. Bon, alors, je parle, mais finalement, avec tout ça, je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas moi le problème ? Est-ce que j'en attends pas trop de Pokémon ? Aujourd'hui, je suis juste triste. Je suis triste parce que j'en attendais beaucoup de ce passage à la Switch. J'attendais le même renouveau pour Pokémon qu'a connu Zelda avec Breath of the Wild. Mais non, faut se rendre à l'évidence, c'est pas pour Pokémon le renouveau. Et en ces temps de confinement, pourquoi s'attarder sur une licence sans ambition quand on pourrait tout simplement changer de chausson ? C'est la question que je vous pose, c'est là-dessus que je finis.
Principe.
Si on veut changer de chausson ?
Ouais, en gros, ce que j'essayais de dire, c'est que voilà... Tant qu'à être enfermé, pourquoi se contenter ? Alors, je démonte un peu les deux chroniques d'avant, mais pourquoi se contenter des choses qu'on connaît déjà, finalement ? Et là où je trouve que Pokémon est plus hypocrite que d'autres jeux, c'est que Pokémon a tendance à faire de la pseudo-nouveauté, à nous vendre quelque chose de nouveau qui, au final, ne l'est pas. Parce que si vous avez eu l'occasion juste de voir et de jouer à Pokémon Épée et Bouclier, il a tout d'un jeu de DS. Et c'est pas ce qu'on attend sur la Switch. C'est pour ça que la Switch a un catalogue très riche de jeux qui demandent de nouveaux jeux, de licences inconnues, qui demandent qu'à être explorés, qu'à être joués. Donc vous attardez pas sur Pokémon. Franchement, n'achetez pas ce jeu. Ne l'achetez pas. Il m'a fait mal. Voilà, il m'a fait mal ce jeu.
Tout à fait d'accord. Alors moi, personnellement, j'ai acheté le jeu à... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle, Micromania. Je l'ai acheté seulement 20 euros. J'ai pas voulu mettre plus, justement, pour le jeu. J'ai revendu un de mes anciens jeux. Je ne citerai pas le nom, parce que j'ai honte. Et, Breath of the Wild. Et, j'ai pas de race. Je sais.
Il a vendu Breath of the Wild pour Pokémon.
J'ai terminé le jeu à 100%. Arrêtez de me juger. C'est bon. Du coup, j'ai acheté le jeu comme tout noob qui se respecte, parce que je, comme toi, Alex, je suis tombé dedans quand j'étais petit et que je ne pouvais pas en sortir, malheureusement. Et c'est exactement ça, c'est exactement ce même ressenti, c'est que rien n'a changé et c'est génial d'une certaine façon, mais en même temps, qu'est-ce que c'est chiant, mon Dieu, quoi. Ça fait 10 ans que je joue à Pokémon et mon Dieu, c'est ça, quoi. Rien ne change.
C'est dramatique et je l'ai pas mis dans ma chronique parce que ça mériterait presque une émission entière. C'est que quand bien même, tu vois, je peux à peu près comprendre cette stratégie de garder un public sûr, tu vois, d'un public de fans hardcore, tout en séduisant des nouveaux avec une recette qui marche bien et qui a fait ses preuves. Hein. Je peux comprendre. Mais pourquoi, avec les moyens et le potentiel qu'a une licence comme Pokémon, pas nous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'annexe. Et quand on voit que le seul... voilà, qu'en termes de spin-off de la série principale, on a Pokémon Équipe de Secours, le remake. Ah, mais triste licence qui nous propose des nouveaux Pokémon qui sont en fait une réédition des anciens, hein, pour beaucoup d'entre eux. Et voilà, je suis triste. Cette licence, elle m'a rendu triste.
Fait mal à chaque fois. Mais qu'est-ce que, parce qu'on l'a appris il n'y a pas très longtemps, que le jeu justement Épée et Bouclier proposait des extensions. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi ? Est-ce que tu vas les acheter déjà, ces extensions ?
Alors, les extensions, je les achèterai pas. Tout simplement parce que, là encore, je trouve que c'est très très malhonnête de nous dire que, bon, bah voilà, du coup, on a remis un peu quelques anciens Pokémon. En fait, j'ai l'impression que les anciens Pokémon qu'ils ont enlevés pour cette version, finalement, si c'était pour les remettre en DLC, non merci. Hein. Je sais pas, comment ça va se passer ? Ça va être 6 badges, peut-être 6 plus 6, parce qu'on est sur des nouvelles pseudo-régions. 6 badges à capturer, un champion à la fin, des nouveaux Pokémon, recapturer les anciens. Ça va, hein, ça va. Là, j'ai déjà donné. Franchement, non. Non, je les achèterai pas. Mais je m'étais dit que je n'achèterais pas ce jeu-là. Le problème, c'est que je voulais en avoir le cœur net, tu vois. Et en fait, Pokémon Épée et Bouclier, j'avais un sentiment que j'ai jamais eu avec aucun Pokémon. C'est-à-dire que, je sais pas, si quand vous êtes fan d'une licence de jeu, je pense que ça le fait à tout le monde, c'est que quand tu joues pas, tu penses un peu. Tu dis, ah, j'ai hâte de rentrer chez moi pour rejouer à Pokémon. Et là, c'était, il faut que je le finisse.
c'est carrément à ce point-là.
Ah ouais, non, c'était à ce point-là. J'ai mis vraiment énormément de temps. À chaque fois que j'étais à une nouvelle arène, j'étais, waouh, une nouvelle arène. Waouh, un décor que je n'ai pas vu ailleurs. Waouh, les personnages sont tellement devenus des archétypes qu'on sait qui deviendra quoi, qu'est-ce qui va se passer. Le seul truc qui m'a impressionné, c'est le grand mot, c'est que le Pokémon légendaire qu'on voit sur la pochette, c'est pas celui qu'on capture dans l'histoire principale, on le capture en post-game. Waouh, c'est ça l'innovation dans Pokémon. C'est une zone en 3D à caméra libre, c'est des Pokémon géants et un Pokémon légendaire, enfin... Déjà, je joue vraiment.
Il y a les Terres Sauvages, il y a Gigantamax, il y a des choses quand même qui sont proposées. Après, voilà, je me fais vraiment l'avocat du diable, j'essaie de trouver des choses.
Oui, mais pour moi, ces choses-là, elles sont malhonnêtes. Mais peut-être laissons parler un petit peu les. Ne partons pas en conversation à deux.
Fait. Gauthier, bien.
Perso, là, niveau Pokémon, j'ai dû y jouer une fois dans ma vie. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Puis au final, j'ai jamais remis la main dessus. Et avec ce que tu me dis, j'ai juste l'impression de... Voilà, j'achète n'importe quel Pokémon. Et en fait, bah voilà, j'aurais fait la série entière.
Et ton préféré, ce sera celui avec lequel tu as commencé.
Voilà.
Gauthier, tu voulais dire un truc ?
Oui, alors en fait, pour ma part, Pokémon, genre, depuis l'avant-dernière génération, ça commence à... Ça me plaît plus trop, en fait. C'était Soleil et Lune, du coup, les dernières. Et je l'ai eu... Enfin, en fait, j'ai commencé à y jouer et il m'a vraiment fallu... Enfin, j'ai joué peut-être vraiment beaucoup, quelques semaines. À un moment, j'ai arrêté. Genre, ça m'a plus intéressé. Et je l'ai repris un an après parce que j'avais plus rien à faire. Enfin, j'étais en vacances, je m'ennuyais un petit peu. Je l'ai repris et je me suis rendu compte qu'il me restait juste une heure en fait pour terminer le jeu. Et je me suis dit, ah ouais, donc c'est vraiment que le jeu devait pas m'intéresser plus que ça. Et en fait, depuis l'annonce de Pokémon Épée et Bouclier, je me dis, mais en fait, à quoi bon continuer Pokémon si c'est pour juste faire cette formule-là qu'on sait depuis le début qui marche et en fait qui n'évolue pas et qui satisfait, je sais plus qui trop, je sais pas trop qui ça satisfait encore, en tout cas dans les anciens joueurs, à part les joueurs qui jouent en mode compétition, mais eux ont déjà, eux apparemment ça les dérange, enfin je crois pas, tu me diras ça Alex, parce que tu t'y connais peut-être mieux que moi, mais vas-y, ouais. Si tu veux le dire.
Ouais, alors bah, du coup pour tout ce qui est compétitif, je m'y connais un peu moins bien que Florian, mais j'ai cru comprendre de ce qu'il m'a dit d'une précédente discussion, tu me corrigeras si je me trompe Florian, c'est que voilà, l'apport de cette nouvelle génération, c'est bon déjà le retrait, donc l'apport c'est un retrait, des anciens Pokémon vu qu'ils sont pas tous disponibles, les tier listes compétitives ont changé, et donc le Dynamax qui finalement a été interdit en stratégie, je me trompe Florian ?
C'est ça, en fait, il y a toute une communauté qui adore la stratégie Pokémon comme moi, et c'est vrai qu'en fait on s'est rendu compte d'un truc, c'est que à chaque fois qu'ils rajoutaient une nouvelle mécanique Pokémon, c'était une mécanique tellement pétée que du coup elle cassait tout le côté un petit peu jeu d'échecs de Pokémon, et vraiment c'était désagréable. Je sais que le Gigantamax, faut imaginer, c'est comme si tu jouais avec ton petit cousin aux échecs et qu'il arrivait avec une grosse batte de baseball et qu'il explose le jeu, donc c'est pas très très intéressant dans ces cas-là de jouer, quoi.
Donc finalement, vu que cette mécanique a été interdite en stratégie, l'apport de cette nouvelle génération, c'est que des retraits. C'est que des... Enfin, allez, il y a les nouveaux Pokémon, hein, évidemment, comme à chaque fois. Mais si, en termes de règles, ce n'est que des retraits. Et voilà, un petit mot aussi sur l'histoire. Alors, je peux comprendre que les mécaniques, bien qu'elles soient vieillissantes, je peux comprendre qu'on puisse être frileux à les changer. Mais s'il y avait juste un truc pour moi qui me ferait voilà qui me ferait un peu pardonner tout ça, ce manque d'ambition générale, ce serait l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un monde extrêmement riche, et pourquoi nous proposer toujours une histoire de... Enfin, en fait, dans la version juste avant Soleil et Lune, j'avais apprécié ce petit effort qui était d'enlever les arènes et de faire des petites épreuves qui finalement c'était faut savoir que pour Pokémon c'était une révolution. Alors en vrai ça reste un peu des arènes, ça reste un peu des arènes, hein, ne nous mentons pas, mais il y avait ce truc là de sortir de la lignée habituelle de la compétition de la ligue, parce que la compétition de la ligue, on en a plus rien à faire, juste gardons cette mécanique parce qu'on est frileux de la changer, encore que hein, voilà. Pourquoi pas incarner un agent de la Team Rocket qui se rebelle, qui a des doutes et tout. Et là vous me direz, oui, mais tu sais Alex, Pokémon de base c'est un jeu pour enfants. Et ben arrêtez de prendre les enfants pour des cons. Il y a possibilité de faire un double discours parce qu'on le sait que Pokémon, ça a et une communauté assez mature et une communauté d'enfants. Et ben pourquoi pas le faire, le double discours, parce que ce double discours du oh là là, tu sais, je suis un méchant, mais je défends la nature, hein. Non, c'est pas assez profond pour quelqu'un qui joue, qui est mature, et c'est ridicule pour un enfant, tu vois, de faire oh là là, il exploite le Pokémon pour sauver les gens, quel héros, enfin, je sais pas. Je pense que même enfant, ça m'aurait lassé. Peut-être que je me trompe, mais voilà.
Je vois quand même sur quelque chose, ouais, Alex, c'est en fait la stratégie économique de Game Freak et de Nintendo, justement. Le but, c'est quand même de produire un jeu tous les ans. Donc, du coup, c'est beaucoup de ressources, beaucoup d'argent mis à chaque fois dans ce projet-là. C'est très, très compliqué à mettre en œuvre. Donc, du coup, ne serait-ce que prendre un risque scénaristique ou technique, c'est énorme, c'est extrêmement dangereux, surtout que Pokémon, tu disais, est-ce que c'est pour les enfants? Ouais, effectivement, il y a une communauté mature, mais qui est très fidèle, qui achète le jeu. Donc du coup, ça c'est assuré, on n'a même pas besoin de faire de changement, ils achètent le jeu. On en est la preuve, toi et moi. Mais, et surtout, eux, ils sont dans une logique de, il faut renouveler la masse. Il faut absolument renouveler cette masse. Et du coup, dans ces cas-là, proposer tout le temps la même chose, une formule qui marche, ben, les enfants, ils y vont.
Bah, c'est ça, c'est
Pokémon,
c'est
le nouveau jeu, ils y vont.
C'est qu'en fait, il y a la communauté de fan hardcore qui rachètera à chaque fois, et c'est les acquis, et il y a la recette qui marche pour séduire le nouveau public. Néanmoins, je reste positif, j'essaye de rester positif et de garder un petit espoir. Pokémon, les jeux, ça fait un moment que c'est calé par rapport à les sorties des animés. Ça fait un moment que c'est sorti et que c'est calé à l'animé. Aujourd'hui, ça fait une saison, deux maintenant, que l'animé de Pokémon est en train de drastiquement changer. Aujourd'hui, Sacha ne va même plus à la rencontre des badges. Aujourd'hui, Sacha, aujourd'hui, ils sont deux déjà, ils sont deux à voyager. Et aujourd'hui, Sacha, il a un pote qui s'appelle Go, je crois, et qui visite toutes les régions, qui fait le tour un petit peu de toutes les régions qu'on connaît. Et j'ai espoir en cette dernière saison de Pokémon, en me disant, en plus, on voit que Pokémon épée et bouclier, voilà, ils font des passes d'extension et tout. Est-ce que je dois encore avoir espoir entre un prochain jeu Pokémon qui peut-être sans renouveler les codes, parce qu'on imagine plus ça, essaiera de changer un petit peu, je sais pas. Donc, mon espoir maintenant, c'est l'animé, que je ne regarde plus, hein, mais je suis un petit peu ça de près. Donc,
Il y en a plein qui disent que maintenant que Sacha est devenu maître Pokémon, est-ce qu'il n'est pas le temps de passer le flambeau à un autre personnage? Donc, tu le citais, Go. Et c'est vrai que Moi, ce que j'attends justement, c'est enfin qu'ils se rendent compte que bah il y a des Zelda qui font des trucs incroyables et que eux aussi en ont la possibilité. Moi, je pense que je vais peut-être acheter des DLC pour envoyer un message en fait à Game Freak, lui dire, ok, d'accord, je vais acheter ta merde. Je la vois ta manœuvre un petit peu malhonnête et tout de me faire acheter ton truc pour avoir d'autres Pokémon. Je la vois, il y a pas de problème. Tu me prendras pas pour un con. Par contre, j'ai envie derrière que les DLC soient une façon pour Game Freak de temporiser, pour dire bon, on va proposer le jeu complet fini et tout en 2 ans. Parce qu'en fait, c'est ça les DLC. C'est le jeu complet fini, mais sur une durée plus longue. Et j'espère que grâce à ce gain de temps, ils vont proposer justement un jeu plus impressionnant, plus ambitieux, ce qui est très triste quand même quand on sait que c'est quand même la première génération, la huitième, oui, qui arrive sur Switch. Et ils l'ont pas planté, mais presque, quoi. Ils ont repris les mêmes animations des Pokémon, ils ont repris les mêmes textures, presque. Il n'y a pas de changement majeur, quoi.
Et cette communication, mais parlons-en.
Communication éreintante.
C'est quand on voit, en fait, ce qu'est la série depuis quelques années, depuis 5-6 ans, en fait, on ne peut pas s'attendre à autre chose, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un truc nouveau. En fait, on sait, et on ne peut plus ne pas être déçu, on ne peut plus être déçu, en fait. C'est un peu ça, le truc, c'est qu'on sait que ça évoluera plus. Moi, j'ai perdu tout espoir envers la série Pokémon. Je sais que ça n'évoluera plus, je n'ai plus aucun espoir, c'est pour ça que je me fous de la gueule depuis le début de l'annonce de Pokémon Épée et Bouclier, c'est parce que je dis, à quoi bon, en fait, encore une fois, à quoi bon faire ça si c'est juste pour continuer la même chose.
Moi, je voudrais bien voir un Pokémon médiéval. Voilà.
Mais oui, mais carrément.
Si tu me dis un Pokémon ère médiévale, je me dis, vas-y, ok. Ouais. On chevauche des Ponyta pour aller dans les villes suivantes. J'achète la Switch, vas-y.
Mais ça, ou tout l'inverse, un Pokémon dans un univers SF, un
steampunk, tu vois, avec Pikachu qui ont des engrenages dans les yeux et tout.
Ils ont fait un film quand même qui amenait cet univers cyberpunk. Le film a marché, je vois pas pourquoi ils oseraient pas y aller pour de vrai.
Parlons-en, tu parlais d'univers un petit peu cyberpunk. Pierre, sans aller trop loin, il y avait un jeu qui faisait ça très bien et qui s'appelle Pokémon Colosseum. Et Pokémon Colosseum, c'était les mêmes mécaniques qu'on a dans les jeux de base, sauf que tous les combats dans Pokémon Colosseum sont des combats doubles, ce qui est assez chouette, en vrai, sans déconner, c'est assez chouette. Et en fait, on avait peut-être toujours la team bizarre aux motivations cheloues, mais on était dans un univers qui était beaucoup moins coloré, qui était donc les gens, c'était un peu la misère. C'était dans un espèce de futur post-apo, je sais pas trop bien où situait ce jeu chronologiquement. C'était cool. C'était vraiment cool. Il y avait en plus. Alors ça c'est fou parce que il y avait toujours des arènes, mais c'était pas le propos majeur. On fallait les faire, mais c'était pas le propos majeur. Et en gros, je crois que si je me souviens bien, c'était la team qui contrôlait un petit peu le monde, enfin en tout cas la région dans laquelle on était. Et c'était assez cool parce que du coup ils enlevaient les Pokémon et enfin voilà, c'était un jeu très très chouette.
C'était un fan game.
Non, c'était
pas un vrai jeu. C'était un vrai jeu, mais qui n'a jamais eu d'ailleurs de remake. C'est-à-dire qu'on a eu deux jeux Colosseum, mais c'est tout.
Ouais.
Pokémon XD aussi.
Alors, ceux-là, ouais. Alors, je peux te dire que ceux-là, aujourd'hui, ils ont un remake sur Switch. Oui. Franchement, je suis. Oui, parce que j'aurais enfin cette. Et encore, remake, je préférerais une suite qu'un remake, mais bref. Je crois que je peux juste m'attendre à un remake. Mais pourquoi pas, oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, un jeu Pokémon, je l'achèterais plus, par contre, neuf. Parce que 60 euros pour un jeu de DS, c'est cher.
Mais la question, c'est même si on te propose un remake de ça, le système, ça restera le même. Il n'y aura rien dans le gameplay qui changera. La progression, ce sera à peu près la même.
Non, mais quand je te dis que je l'achèterai d'occasion à 20.
Oui, d'accord. Ok. Bon, si tu pars de là, après, tu peux acheter tout.
Oui, c'est ça. Oui, tu peux acheter ce que tu veux. Mais ce que je disais à Gauthier, on en avait parlé quand on t'était vu dans un bar. Donc, ma grosse déception, c'était Pokémon Colosseum. Et je pense que si vous n'avez rien à ajouter, on peut clore cette discussion là-dessus. C'était Pokémon Colosseum. C'était Pokémon Épée et Bouclier, ma grosse déception vidéoludique de l'année 2020. Et Juste après, j'ai acheté en promo à 5 euros Evoland, qui est un jeu qui vous retrace un petit peu l'histoire des mécaniques du jeu vidéo dans une histoire originale. Et donc, il y avait Evoland 1 et 2. J'étais mais ravi. Et celui-là, j'y pensais quand j'étais pas en train de jouer. J'étais ravi. Et c'est un petit jeu indépendant, Evoland. Il y a les Evoland 1 et 2 dans le pack. Et j'étais ravi. Et j'étais ravi en étant déçu de la licence qui a percé mon enfance. Donc, je reprends ma conclusion, c'était changer de chausson, changer vos habitudes. allez découvrir d'autres jeux pendant qu'on est confiné, vous avez ça à faire. Donc voilà, allez découvrir et acheter Evoland.
Restez chez vous.
Restez chez vous.
Restez okay. Chez vous, bon sang.
Eh bien, écoutez, Evoland qui est disponible sur PC, sur Switch, sur d'autres consoles, il me semble aussi, je ne sais pas.
Oui, ne passez pas à côté.
Eh bien, écoute, merci pour cette chronique que tu voulais faire depuis très longtemps, Alexandre.
Peut-être que ça te pesait quand même. Hein.
Oui, on s'en parlait, là, je vais mieux, là. J'ai un point de
sens que dans la canalise. Hein.
Du coup, ça va être ma chronique à moi.
Allez, à toi. Allez.
Que j'ai bien sûr écrit en totalité. En avance.
Oui.
Du coup, moi, je vais vous parler d'Animal Crossing parce que je suis quelqu'un d'original. Oh là là, Animal Crossing, c'est mignon, on peut y jouer jusqu'à l'infini. Oh là là, qu'est-ce que je suis révolutionnaire. J'en sais encore rien. On est vendredi dernier, à l'heure où je vous parle. Le jeu vient juste de sortir. Si ça se trouve, aujourd'hui, mercredi, je suis déçu de ouf du jeu et je suis dans l'incapacité de le revendre étant donné qu'à cause du confinement, j'ai été forcé de l'acheter via Internet et donc le jeu ne m'appartient pas totalement. Vous pouvez écouter l'émission de Super Radio 64 sur la dématérialisation du jeu vidéo pour en savoir plus.
Allez, j'étais là.
Oui, Florian aussi, il me semble.
Tout à fait.
Du coup, Animal Crossing, je vais pas vous en parler, mais je vais plutôt vous conseiller Dragon Quest 11S, les combattants de la Destinée édition ultime sur Nintendo Switch. Parce que le jeu est disponible sur PSC et PS4, mais il s'appelle juste Dragon Quest 11, et vous conviendrez que c'est quand même un peu moins stylé que Dragon Quest 11S, les combattants de la Destinée édition ultime sur Nintendo Switch. Du coup, c'est un RPG, donc par définition, c'est un jeu assez long. La preuve, j'en suis à 80 heures et je viens juste d'atteindre le boss de fin. Et franchement, c'est un jeu cool, peut-être le meilleur Dragon Quest de tous les Dragon Quest. Il est long, c'est du combat tour par tour classique, et on peut se dire « Oui, Dragon Quest, c'est une série qui a plus de 30 ans, ça n'évolue jamais. » Alors c'est vrai. Je crois que Dragon Quest, c'est la série la plus codifiée et la plus classique de l'histoire du jeu vidéo. Depuis le premier épisode, on retrouve les mêmes codes, les mêmes noms d'attaques, les mêmes musiques, les mêmes bruitages, les mêmes sorts, si bien qu'on peut prendre n'importe quel jeu de la série principale, on aura la certitude d'avoir peu ou prou la même expérience, en ayant simplement le scénario et les graphismes qui changent, ce qui peut amener deux points de vue, soit c'est nul, c'est une série qui n'évolue jamais, soit le point de vue un peu plus positif, c'est vrai que ça n'évolue pas, mais il y a un côté rassurant. J'irai pas jusqu'à dire qu'en faisant un Dragon Quest, vous les avez tous faits, mais quand vous jouez à un nouveau Dragon Quest, vous savez à quoi vous attendre, vous avez, comme les chaussons d'Alex, quelque chose de rassurant, de confortable. Et c'est là où je sais que je suis un peu, voire très contradictoire, parce que ce qui me saoule dans Pokémon, je l'applaudirais presque pour Dragon Quest, alors que c'est à peu près le même problème. Et pourtant, Dragon Quest, ça fait 11 épisodes, ça fait plus de 35 ans même, alors que Pokémon, ça fait uniquement 20 ans. C'est pourquoi je vous pose la question, pourquoi ça me dérange pas dans Dragon Quest et ça me saoule dans Pokémon?
Attends, tu nous demandes de faire ta psychanalyse.
Je fais ma psychanalyse en direct.
Je dirais que c'est masochiste, du coup.
Qui a joué à Dragon Quest autour de la table?
Non, malheureusement, j'ai joué à Dragon
jamais,
Quest.
Jamais.
Alors, moi, j'ai joué un peu à la démo de Dragon Quest 11 et j'ai déjà joué à Dragon Quest 3 et à Dragon Quest 9. Et franchement, j'aurais du mal à te dire aussi pourquoi ça. Bah, parce que peut-être qu'on a l'impression que dans les efforts faits, en fait, je pense que je saurais à peu près répondre à ta question. C'est en termes de la vente et de la communication. Je pense que Pokémon, à chaque fois, ils vendent le truc comme des nouveautés. Tu vois, il y a des nouvelles features qui apparaissent qui disparaissent le jeu d'après. Ce qui n'est pas le cas pour Dragon Quest. Et Dragon Quest, je sais pas, je saurais pas te dire pourquoi, mais l'univers, eh ben, je le trouve plus chaleureux. Je trouve plus... Alors qu'on parle quand même de Pokémon, tu vois, qui a fait ses preuves depuis un moment, mais bah moi, quand j'ai commencé à jouer à la démo de Dragon Quest, du dernier Dragon Quest, j'avais pas ce sentiment de jouer au même jeu. J'avais pas le sentiment, peut-être parce que, tout simplement, c'est pas le même jeu, ne serait-ce qu'en termes d'histoire. Tu vois, dans Dragon Quest 9, t'es un espèce d'ange qui perd ses ailes, et qui est très poétique d'ailleurs. c'est pas du tout le cas dans Dragon Quest 11. Et c'est, alors voilà, il y a une histoire toujours très classique, mais toujours différente, avec des mécaniques qu'on aime bien.
T'as peut-être pas justement l'impression d'être pris pour un con, alors que voilà, clairement, Pokémon, ça commence à le faire, quoi. Je veux dire, ça commence à être très très visible qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Alors que Dragon Quest, non, là, ils nous proposent des choses simples, certes, mais à la fois très intelligentes.
C'est peut-être que dans Dragon Quest, en fait, ils donnent pas l'impression qu'ils veulent évoluer. Du coup, on peut pas être déçu, contrairement à Pokémon qui fait juste des micro-évolutions, qui au final ne change rien, alors que Dragon Quest, le contrat de départ, c'est vous aurez le même système, le même chara-design, puisque c'est Akira Toriyama depuis le premier, c'est les mêmes monstres aussi, c'est les mêmes designs de personnages depuis le tout début qui n'a jamais changé. Et peut-être qu'en fait, vu qu'il n'y a pas la promesse de on va vous proposer quelque chose de différent, et vu qu'on sait à quoi s'attendre, et on n'est pas déçu, et puis ça marche, la formule marche.
Non, et puis c'est surtout le... Voilà, la grosse différence à chaque fois, ça va être le changement graphique. Bon, histoire, ok. Et le truc, il va pas vendre ça en mode... Voilà, il va faire des petites features en mode... vous pouvez rejouer à la version 3D, mais c'est pas la composante principale du jeu. Alors que, si vous vous souvenez, si vous vous rappelez des trailers, on en a bouffé en plus des trailers d'épée et bouclier, c'était... Regarde le Pokémon géant! Et puis tout le jeu, en plus, tout le jeu est basé... Enfin, toute l'histoire du jeu, c'est les Pokémon sont géants, c'est une source d'énergie.
Voilà. J'avais tellement honte quand j'ai vu la bande-annonce du truc.
Mais ouais, mais
une mécanique formidable, putain, énorme le truc. Il balance un énorme Raichu dans la vidéo et tu dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'ils ont pas compris qu'on leur avait dit qu'on voulait plus ça?
Et en fait, le.
On leur a hurlé, il y a eu des pétitions qui ont été faites.
Mais le jeu, en fait. Je pense que Dragon Quest a ce truc-là d'assumer, en fait. Dragon Quest assume totalement que c'est la même chose. Là où Pokémon, il se concentre sur le nouveau, qui est pauvre, hein, parce que disons-le, le nouveau est pauvre. Mmh. Et donc, du coup, t'es plus focalisé sur ça, donc tu sais plus à quoi tu joues, parce que t'es un ancien gars, t'es un ancien joueur, tu veux rejouer aux anciens trucs que tu connais, mais pourtant, Nintendo et Pokémon font que te dire le nouveau truc, c'est le meilleur truc de ce prochain jeu. Et toi, tu l'aimes pas, donc bref, je pense que c'est... Voilà, tu dois avoir raison là-dessus, Gauthier, c'est que Dragon Quest assume juste ça. Et quelque chose à dire aussi sur cette version de Dragon Quest, c'est peut-être avant de vous lancer, jouer à la démo. La démo, elle est longue. Elle est si longue.
Oui, sur Switch. Elle dure vraiment 10 heures.
Ça, c'est parce que en c'est plus, tu vois, d'assumer, ils sont généreux. Mmh. Et ça, c'est cool. Ils sont vraiment généreux. Et peut-être aussi que Dragon Quest, je pense que Dragon Quest, tu vois, ils n'ont pas ce, si je puis dire, ce cul entre deux chaises. Dragon Quest, c'est clairement un jeu qui s'assume pour les anciens, j'ai l'impression. C'est en mode, ouais, tu connais, bah, c'est pour toi. Et ah, t'es nouveau, ouais. Bah tu peux essayer, ouais, il y a une démo, mais de base c'est pour les anciens. Je peux comprendre, tu vois, quelqu'un qui connaît pas Dragon Quest qui est réticent à essayer, parce que Dragon Quest, ça s'est toujours vendu comme un truc de pur gars qui fait que ça depuis que ça existe.
Bah voilà, encore une fois, tu sais à quoi t'attendre et tu retrouves exactement tes codes, tu sais, cette attaque là, j'ai la lame du faucon, je sais ce que c'est, j'ai pas besoin de lire la description, la lame du faucon, c'est t'attaque deux fois, voilà, c'est ça. Et du coup, tu sais ce que c'est. Et en fait, limite, tu gagnes du temps quand tu connais déjà, quoi. Et moi, j'ai joué, en fait, j'ai commencé avec le 9, que j'ai vraiment adoré, qui en fait.
Ouais, le 9 est bien.
Le 9, il est excellent. En plus, on peut jouer en multijoueur.
Ouais.
Et en fait, c'est vraiment le 9 m'a vraiment bien accroché. Et c'est ça qui. Et après, j'ai joué à d'autres épisodes de Dragon Quest. Je me suis dit, ah, tiens, c'est la même chose, mais c'est cool. Et quand tu vois, en fait, la série d'à côté, qui est Final Fantasy, qui, en fait, Final Fantasy, qui a quand même un sacré mérite, qui, à chaque épisode, depuis le tout début de la série, à chaque épisode, ils changent complètement leur système de jeu, quoi.
Mais je comprends même pas pourquoi ça s'appelle Final Fantasy. Genre, c'est bizarre. Il y a l'univers, il y a des composants qui restent, mais c'est clairement pas... Mais ouais, Final Fantasy, pour ça, c'est aussi très riche, et c'est très cool. Donc.
Mais ouais, rien qu'à partir du premier... Enfin, le premier Final Fantasy, il était très classique, c'est le combat tour par tour. À partir du deuxième, c'était toujours du combat tour par tour, mais ils t'ont mis un système d'expérience qui n'a rien à voir. C'est pas tu gagnes des points d'expérience, C'est en fait, si tu tapes, et bah, t'augmentes ta force à la fin du combat. Si tu te fais toucher, et bah, t'augmentes ta défense, t'augmentes tes points de vie. Si jamais tu utilises de la magie, bah, t'augmentes tes points de magie.
Et oui,
c'est comme ça dans Final Fantasy 2. Dans le 3, ils ont c'est gardé le système de tour par tour. Et ils ont rajouté, tu peux changer de classe, etc., etc. Et à chaque fois, tu avais un truc qui avait rien à voir avec l'ancien épisode. Et c'est un truc qui est super intéressant et super couillu que Dragon Quest fait pas. Et on peut se demander, Dragon Quest n'est populaire uniquement... Et de Dragon Quest, est-ce qu'il est populaire pas uniquement juste à cause des anciens qui continuent à acheter, qui savent à quoi ils s'attendent, alors que Final Fantasy essaye peut-être d'avoir... il perd les gens en fait à chaque fois. Quoi.
C'est possible, j'avoue que là-dessus, je saurais pas te dire.
Bon, on va peut-être bientôt terminer du coup. Sauf si quelqu'un a quelque chose à dire.
J'avoue que moi j'ai tout dit.
Moi aussi. Pareil, enfin, après, ça a été assez compliqué de choisir qu'un seul jeu. Moi j'ai des tonnes de jeux à recommander pour le confinement. Mais bon.
On peut faire vite fait. Le
non exhaustif des jeux qu'on conseille.
Ouais.
Oh là là. Du coup, moi je l'ai dit tout à l'heure. Si j'avais un jeu, pour le coup, vu que j'en ai pas recommandé, j'ai recommandé de pas jouer à un jeu. Donc s'il y avait un jeu pour moi à retenir, c'est Evoland. Parce que Evoland, il va vous faire voyager à travers toutes les gameplays iconiques. Voilà, et à un moment, Evoland, ça se transforme en beat'em all, puis ça se transforme en jeu de combat, puis en fait, c'est un géant RPG. Enfin, c'est super pour ça. Il y a des mécaniques de tactical RPG à un moment. Il y a, enfin bref. Et tout ça, enrobé dans...
Les deux Evoland.
Oui, les deux Evoland. Je dis Evoland parce que c'est... C'est dur aujourd'hui de ne plus trouver le pack, mais s'il y en avait qu'un, enfin, moi quand je parle surtout du 2. Et tout ça enrobé autour d'une histoire finalement très prenante. Je l'ai trouvé très secondaire au début, et c'est très prenant, donc jouer à Evoland.
Je vais me remettre à Assassin's Creed, parce qu'il faut. Là, il faut que je bute des gens, je pense. Ça va être obligé. J'ai vu qu'il était disponible sur Switch, donc on tente.
Moi, c'est un peu par défaut, parce que du coup, après Dragon Quest XI, je l'ai vraiment eu en octobre, et j'ai acheté plusieurs jeux en attendant d'avoir fini Dragon Quest XI, parce que je fais un gros jeu à la fois, on va dire. Et du coup, là, vu que j'ai bientôt fini, je vais commencer à jouer à The Witcher 3, et on va voir ce que ça donne.
D'accord. Et Animal Crossing, du coup, c'est bien, pas bien, on n'a pas trop parlé.
Pour l'instant, j'ai joué 4 heures, j'ai joué 2 heures ce matin quand il faisait nuit, dès la sortie, et en me levant là tout à l'heure. Et pour l'instant, j'ai des craintes que j'avais qui s'effacent au fur et à mesure, donc je pense que ça va être un jeu cool. Et toi, du coup, Pierre ?
Ah bah moi j'ai tous les BioShock que je recommande, les Half-Life, les Deus Ex, toute la série des Metro, même le dernier qui est pour moi moins bien abouti, les Hitman, pour moi c'est un classique hein, la série des Hitman, et puis voilà, après si vous avez du temps à perdre sur un MMORPG, je vous conseille Black Desert Online, et puis voilà.
Ok, et ben merci à vous trois pour ces... ces discussions, ces conseils, ces petits conseils conso. Merci d'avoir écouté Super Radio 64. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de la radio www.c-lab.fr ainsi que toutes les autres émissions. On se retrouve je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, peut-être une autre fois, qui sait. Merci Pierre.
Toute mort hein.
Ben, merci à toi Gauthier.
Merci Alex.
Et ben, pas de soucis, merci à toi.
Merci Florian.
Vous, à toi.
Et puis à une prochaine fois pour une nouvelle émission. Salut.
Salut.
Salut.